Bien le bonjour à vous, chers auditeurs de Retro One Air. Toute l'équipe du Club Radio est heureuse de vous retrouver pour vous présenter son second magazine. Pour cette émission, nos chroniqueurs sont partis à l'exploration de divers domaines scientifiques. Laissez-moi vous présenter le programme qui vous attend. Abby ouvrira le bal de ce magazine avec sa chronique portant sur les personnes HPI, c'est-à-dire les personnes à haut potentiel intellectuel. Ensuite, nous quitterons le sujet du cerveau humain puisque Dimitri nous parlera des intelligences artificielles. Nous partirons à l'aventure des mystères de notre cerveau avec la chronique d'Alexandre qui nous présentera l'effet placebo, l'art et la manière de tromper notre cerveau. Enfin, Nicolas nous emmènera du côté des jeux vidéo où il nous explicitera les effets de ces derniers sur les jeunes. Sans plus attendre, car je sais que vous êtes impatients d'en apprendre plus sur chacun de ces sujets, nous retrouvons Abby et sa chronique sur les personnes à haut potentiel intellectuel.
Bonjour, moi je m'appelle Abigail et je vais vous parler des personnes à haut potentiel intellectuel. Donc tout d'abord, il faut savoir que la communauté scientifique n'est pas tout à fait d'accord à ce sujet. En effet, les informations ne sont pas toutes claires. Il faut déjà savoir qu'en général, le haut potentiel n'est pas considéré comme un trouble. En réalité, la communauté scientifique ne le considère presque pas non plus. Mais évidemment, le haut potentiel est bel et bien réel et peut engendrer des complications au quotidien. Tout d'abord, il faut savoir qu'HPI ne signifie pas seulement être intelligent. Ça vient avec d'autres caractéristiques, dont une vitesse de traitement hors norme. Si le HPI vient avec d'autres symptômes, comme l'hypersensibilité ou l'anxiété, cela peut être lié à un autre trouble bien caché sous cette étiquette de haut potentiel. Comme un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, aussi appelé TDAH, ou le trouble du spectre de l'autisme, aussi appelé TSA, pour la pensée en arborescence. L'hypersensibilité peut-elle être liée à des troubles de l'humeur ou de la personnalité, comme le trouble bipolaire ou le trouble cyclothymique, car en général, les personnes haut potentiel ont au contraire plus de facilité à gérer leurs émotions. Quand on pense que l'on est ou que son enfant est HPI, on peut voir un psychologue qui, après plusieurs séances, pourra vous faire passer un de ces trois tests. Le W2PSI-4 pour les jeunes enfants de 2 ans et demi à 7 ans et 7 mois, le WISC-5 pour les enfants et les adolescents et le WAIS-4 pour les adultes à partir de 16 ans. Ces tests permettent d'évaluer les capacités cognitives comme la mémoire ou le traitement des informations et donc d'évaluer le QI. Ce sont aussi les tests qui aujourd'hui ont la plus grande validité scientifique. Mais bien évidemment, être HPI ne relève pas que de l'intelligence. En effet, plusieurs séances avec le ou la psychologue avant et après le test seront nécessaires. Il faut aussi savoir que le quotient intellectuel n'est pas fixe, qu'il évolue au cours de la vie. Ces trois tests permettent entre autres d'évaluer des données cognitives à travers notamment des échelles de compréhension verbale, de raisonnement fluide, etc. Je pense que maintenant, les procédures des tests ont bien changé. Il faudrait s'y rendre pour le savoir. Surtout que les psychologues peuvent avoir des procédés différents et des questions différentes. Personnellement, j'ai été testée en CP, donc j'avais 6 ou 7 ans. Un jour, on m'a dit que j'avais rendez-vous avec la psychologue de l'école, je ne savais même pas pourquoi d'ailleurs, et elle m'a beaucoup parlé. Ensuite, on s'est revus et elle m'a fait passer des tests. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y avait exactement comme question, parce que je m'en souviens plus, mais je sais que ça m'était complètement égal, je bâclais toutes les questions et je n'étais pas du tout concentrée, ce qui aujourd'hui me fait un peu rire quand j'y repense. Ce n'est donc pas resté bien longtemps dans ma mémoire, et mes parents me l'ont rappelé et les souvenirs me sont revenus. J'avoue que maintenant qu'on m'en parle, ça donne un peu plus de sens dans ma tête. C'est vrai que en tant que personne HPI, je m'ennuyais beaucoup en cours, pas particulièrement parce que je savais déjà de quoi on parlait, mais parce que je comprenais et j'agissais plus vite. Je me sentais aussi beaucoup à l'écart par rapport aux autres enfants de mon âge, et les autres aussi remarquaient que j'étais bizarre ou que j'avais quelque chose de différent. À l'école, il n'y a pas d'aménagement particulier pour les personnes au potentiel, même si je pense que l'équipe éducative a besoin d'être au courant, et même s'il peut arriver que des PAP ou PAI peuvent être mis en place, bien que ce soit rare. Pour certaines personnes, se faire tester, c'est enfin découvrir la partie cachée de l'iceberg, enfin comprendre pourquoi on fonctionne différemment. Malheureusement, il arrive que les tests ne suffisent pas, que le problème soit plus profond. Je peux comprendre que faire face à son soin intérieur ou à ses problèmes peut être compliqué, mais il faut savoir que le plus simple pour aider ou soigner quelque chose, c'est de connaître ce quelque chose. Même si ça prend du temps, même si ça fait peur, si l'on doit perdre des gens en chemin, que le parcours psychologique est jugé par les autres, même si l'on ne trouve pas tout de suite, si le personnel que vous rencontrez n'est pas le bon au début, même si ça dure plusieurs années. Le chemin d'une vie heureuse est long et sinueux, mais je pense que ça en vaut la chandelle. Si vous avez besoin d'aide, bravez le regard extérieur et parlez-en. Et si vous ne vous sentez pas écouté, vous avez le droit de le dire, de demander à parler à quelqu'un d'autre. Vous avez le droit d'être exigeant. Je le précise car on ne le dit pas assez. On nous dit souvent de nous contenter de ce que nous avons parce que ça n'existait pas avant. Mais nous avons le droit de vouloir le meilleur pour nous-mêmes ou nos enfants, nos proches. Sur ces mots, j'espère avoir pu éclairer certaines personnes et j'espère que vous passerez une excellente journée.
Merci à Abby pour ce point autour des personnes HPI et d'avoir partagé ton expérience. Si vous désirez en apprendre plus sur les personnes HPI et le milieu scolaire, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Association française pour les enfants à haut potentiel, afep-asso.fr. Poursuivons avec Dimitri qui va nous parler des intelligences artificielles. Dimitri, je t'en prie, la parole est à toi.
Bonjour Laura, bonjour à tous. En 1997, un événement majeur s'est produit. Cela ne concerne pas particulièrement l'actualité en général, mais plus la communauté des joueurs d'échecs. En effet, à cette date, le champion du monde Garry Kasparov a été battu. Jusque-là, rien d'impressionnant, même si c'est le champion du monde. Et si je vous disais que c'était un ordinateur qui l'a battu ? Eh oui, il s'agit de Deep Blue, un super ordinateur développé par IBM. Après une victoire 4-2 en 1996, Kasparov prend sa revanche un an plus tard, mais surprise, c'est Deep Blue qui gagne 3,5 à 2,5. Comment est-ce possible, me demanderiez-vous ? C'est grâce notamment à l'intelligence artificielle, ou IA pour les faire court. Mais qu'est-ce que l'IA ? À quoi ça sert ? L'IA, pour résumer, c'est un programme informatique qui imite plus ou moins le fonctionnement du cerveau humain. Du moins la capacité de raisonnement logique. Cela peut passer par des calculs plus ou moins compliqués, ou par la reconnaissance d'objets et l'optimisation. Aux échecs, par exemple, l'IA peut décider du coup qui lui semble le plus avantageux. C'est lié notamment au deep learning, autrement dit, apprentissage profond. Un système d'apprentissage où on bourre la base de données de l'IA pour qu'elle puisse fonctionner correctement. En effet, avec tout ce qu'elle a dans sa base de données, l'IA va analyser toutes les informations en fonction de certaines caractéristiques pour en sortir un résultat. Par exemple, pour reconnaître certaines variétés d'iris, l'IA va calculer le rapport entre la largeur et la longueur des pétales et classer tout ça dans un graphique. Dès qu'on lui donne une nouvelle image d'iris, rebelote. Mais elle va comparer ses valeurs avec ce qu'elle a dans sa base de données. Elle va sortir un pourcentage de correspondance avec l'échantillon sélectionné. Et plus cet échantillon est large, plus le résultat est précis. Cet algorithme s'appelle les cas plus proches voisins et c'est l'algorithme de deep learning le plus simple à comprendre et à mettre en œuvre. Bref, l'IA est une machine à apprendre. C'est le principe de l'IA faible, notamment utilisé en industrie et en entreprise. L'intelligence artificielle dite « forte » va encore plus loin et va imiter la conscience humaine, les émotions et la faculté de comprendre son raisonnement. Cependant, il serait quasi impossible de reproduire parfaitement la conscience humaine avec des lignes de code, car le cerveau est notamment une pièce extrêmement complexe du puzzle anatomique humain. Pour tenter de savoir si une IA est suffisamment « humaine », entre guillemets, notamment dans les interactions, il y a ce qu'on appelle le test de Turing. Dans ce test, on a un sujet qui interagit avec un autre interlocuteur qui peut être soit un humain, soit une IA. Quand le sujet répond avoir dialogué avec un humain alors qu'il s'agissait d'une IA, on dit alors que cette IA a passé le test de Turing. C'est notamment le cas de l'IA Elisa dans les années 60, qui se prenait pour une psychologue. Tandis que l'IA se veut l'égale de l'homme, il y a certains moments où celle-ci le surpasse. C'est notamment le cas de Watson, une IA encore développée par IBM et qui a gagné le jeu télévisé Jeopardy, un jeu télévisé américain de questions-réponses inversées, où on donne une réponse et on doit trouver la question correspondante. On peut aussi mentionner AlphaGo, qui a battu au jeu de Go Lee Sedol, le champion du monde. L'IA qui surpasse l'homme peut faire souvent peur à ce dernier. C'est notamment mise en scène dans certains films de science-fiction, où elle acquiert une véritable conscience. Par exemple, on peut citer iRobot, un film de 2004 réalisé par Alex Proyas. Dans ce film, les robots sont les assistants des humains et suivent les trois lois de la robotique d'Isaac Asimov. Loi numéro 1, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, laisser cet être humain en danger. Loi numéro 2, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Loi numéro 3, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec les deux premières lois. Dans le film, le protagoniste, le détective Dale Spooner, est chargé d'enquêter sur un meurtre, celui du docteur Alfred Lanning, chercheur en robotique. Le principal suspect, un robot nommé Sony. Or, quelque chose cloche. Les robots sont censés répondre aux trois lois de la robotique. Pourquoi n'est-ce pas le cas de Sony ? Si l'IA peut faire peur dans certains cas, il y a des domaines où elle peut être utile, notamment en industrie, où elle optimise la conception de certaines pièces, ou à la maison, ou dans les téléphones. Ce sont les fameux assistants vocaux, dont Google, Cortana, Alexa ou Siri. Elle peut aussi se montrer compétente dans l'art. C'est notamment le cas avec DALL-E ou Stable Diffusion, qui réalisent des images à partir de mots-clés. Bien sûr, cette thématique reste controversée, car pour produire de telles images, les bases de données doivent être remplies avec des images, parfois volées. Et cela pose problème envers les véritables artistes, qui peuvent se voir remplacés. On a donc un problème éthique et moral. Il y a aussi des soucis techniques, où des personnages ont des doigts en trop, ou des soucis de proportion, malgré des résultats bluffants. C'est typique de l'IA, car elle a encore beaucoup de difficultés avec les détails minuscules, comme les doigts. Pour conclure, que l'on aime ou pas, force est de constater que l'IA a quand même sa place dans la vie du quotidien.
Merci Dimitri. Je suis sûre que nos auditeurs en sauront maintenant plus sur les intelligences artificielles, grâce à ce que tu viens de nous dire. Sans plus de cérémonie, nous retrouvons à présent Alexandre et sa chronique sur l'effet placebo et notre cerveau.
Bonjour Laura et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'effet placebo. Mais vous allez me dire, c'est quoi l'effet placebo ? Eh bien, l'effet placebo est utilisé en médecine et c'est un faux médicament. Ironique, non ? L'effet placebo n'a pas été découvert par une personne en particulier. Il a été constaté plusieurs fois dans le temps et la plus ancienne mention de cet effet date du XVIe siècle avant Jésus-Christ en Égypte. Cependant, le terme que j'utilise est défini qu'en 1785 dans le Most Herbite New Medical Dictionary, un dictionnaire médical anglais pour les non-bilingues. Mais en soi, l'effet placebo, c'est quoi ? C'est un effet psychologique utilisé en médecine. On va donner à un patient A un médicament véritable et à un patient B un morceau de sucre qui a la même apparence que ce médicament. Cependant, ce patient B est persuadé qu'il s'agit d'un vrai médicament. Et c'est ici que l'effet placebo entre en jeu. Car même si le patient B a du sucre, il est persuadé qu'il s'agit d'un vrai médicament et le cerveau va produire des endorphines. Cependant, l'effet placebo est limité, on ne peut pas guérir un cancer avec. Mais comment fonctionne l'effet placebo ? Eh bien, le médecin a un rôle à jouer. Lors d'une expérience menée sur 200 patients, le médecin Kebi Thomas a remarqué que parmi les patients ayant eu une consultation positive, 64% allaient mieux au bout de 2 semaines, contre 39% pour ceux ayant eu une consultation négative. Mais comme toute chose dans ce monde, l'effet placebo a son contraire, l'effet nocebo. Là où l'effet placebo se base sur l'efficacité d'un médicament, l'effet nocebo se base sur la peur que cela soit inefficace et d'avoir des effets négatifs. Finalement, il ne faut pas oublier que l'effet placebo est psychologique, il n'a pas d'efficacité sur des infections ou certaines maladies, mais il peut augmenter l'efficacité d'un médicament. Peut-être avez-vous été exposé à l'effet placebo sans le savoir. Qu'en pensez-vous ?
Merci Alexandre. Grâce à toi, nous venons d'en apprendre plus sur l'organe aussi vital qu'encore rempli de mystères qu'est notre cerveau. Et c'est déjà la dernière chronique de ce magazine. Je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous développer les effets positifs et négatifs qu'ont les jeux vidéo sur les jeunes.
Bonjour à tous, bonjour Laura. Les jeux vidéo rendent stupides. On entend souvent cette phrase, surtout de la bouche de nos parents, mais est-ce vraiment le cas ? Il y a bien évidemment beaucoup d'inconvénients causés par les jeux vidéo. On peut avoir du mal à lâcher l'écran sur lequel on joue. On finit donc par jouer très, voire trop longtemps, ce qui provoque souvent des maux de tête, voire une grande fatigue. Il ne faut pas oublier qu'ils sont la cause des addictions. D'ailleurs, d'après une étude de Péléas menée auprès de 2000 élèves parisiens, de la première à la quatrième, 14% auraient une addiction problématique. Et selon le docteur en sociologie Laurent Trémel, le plus souvent, les jeux vidéo valorisent la compétition individuelle, la plus poussée, la domination des autres pour réussir. Et cela souvent à cause des jeux demandant d'être souvent connectés, comme par exemple le jeu vidéo Dokkan Battle qui demande une connexion régulière pour avoir une avancée convenable dans le jeu, ou encore Clash Royale ou d'autres jeux du genre contenant des équipes ou des clans de joueurs, car ils sont par exemple menacés d'être virés s'ils ne sont pas connectés quotidiennement. Cette addiction se répercute également sur les heures de sommeil, car les joueurs addicts, même sans se rendre compte, jouent la nuit. Aussi, sans avoir une réelle addiction, jouer aux jeux vidéo nous coupe en quelque sorte du monde et d'une vie sociale. Cependant, bien qu'il y ait des points négatifs, il y a également des points positifs. Et oui, grâce aux jeux vidéo, nous pouvons faire des rencontres qui deviendront peut-être de futurs amis. Certains jeux permettent également de développer la créativité, tels que Minecraft, les réflexes, comme par exemple Geometry Dash, ou encore la stratégie, comme les jeux Forge of Empire, Final Fantasy et même F1 Manager ou encore Kerbal Space Program. Donc, pour répondre à notre question, les jeux vidéo ne rendent pas forcément stupides. Ils peuvent au contraire aider les jeunes à se développer s'ils n'en abusent pas. Pour finir, un petit message d'espoir pour les personnes accros. Il y a bel et bien un moyen de décrocher. Vous pouvez par exemple éloigner tout écran de vous et faire d'autres activités sans écran ou trouver une autre alternative vous permettant d'éviter d'y jouer trop souvent. Cela ne sera pas facile, mais si vous êtes réellement motivé et faites des efforts, alors vous y arriverez.
Merci Nicolas pour nous avoir présenté les divers effets qu'ont les jeux vidéo sur les jeunes. Notre second magazine est déjà terminé. Vous pouvez le retrouver comme le précédent de cette saison sur le site du lycée Rotrou. Toute l'équipe vous dit à très bientôt pour de nouvelles chroniques sur Rotrou On Air.